Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et on va lire les textes maintenant en vue de la prédication. On a passablement de textes à lire. Le premier qui est le texte principal, ce sera le psaume 16, qu'on va lire en entier. Le psaume numéro 16, qui est donc le texte principal de la prédication. Psaume numéro 16, depuis le verset 1. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a un premier texte complémentaire qu'on va lire qui se trouve dans les Actes au chapitre 2, depuis le verset 22, dans le livre des Actes. Au chapitre 2, depuis le verset 22, et on lira jusqu'au verset 32. Actes, chapitre 2, verset 22. C'est donc Pierre qui parle, c'est le discours suite à la Pentecôte, hein, quand l'Esprit est venu sur les premiers disciples, et Pierre fait donc un discours public. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et puis on va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et on va avoir plusieurs lectures au sein de ce même chapitre. Donc Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 11. Jean chapitre 11, on va commencer par lire les versets 1 à 4. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était mort. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui qui t'aime est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et puis on fait un saut en avant, on va au verset 17, on lira jusqu'au verset 27. Donc depuis le verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et puis, encore un dernier passage, toujours dans le même chapitre, on va au verset 38 et on lira jusqu'au verset 44. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Dieu est la joie. Il est la source de la joie. Le plaisir Le plaisir de la vie, la jouissance de la vie découle à juste titre de lui. Selon le catéchisme de Westminster, à la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Cela signifie que nous accomplissons notre but d'existence en trouvant à juste titre du plaisir en lui, maintenant et pour toute l'éternité. Le mois dernier, plusieurs hommes de l'Église et moi-même avons eu l'occasion d'assister aux funérailles de Marie Jeanne Piaget. Ce fut l'occasion d'accompagner notre frère Stanislas dans son deuil et dans son souvenir de sa vie. Stanislas a raconté la vie de sa mère. À l'invitation de Piaget, Pasteur Tim a ensuite présenté une réflexion sur la vie, sur la nature de la vie, c'est-à-dire désignant Dieu comme sa source et soulignant l'espoir de résurrection que l'on trouvait en Jésus-Christ. Alors que vous êtes assis dans une dans une chapelle au milieu du souvenir d'une vie perdue. Vous êtes frappé par le caractère choquant de la mort. Une partie de vous, écrit, ce n'est pas bien, ce n'est certainement pas ainsi que les choses devraient être. Comment cette personne peut-elle soudainement disparaître? La mort peut parfois apparaître comme un événement normal, en particulier si vous avez vécu une longue vie et que vous avez vu mourir beaucoup de membres de votre famille, d'amis et de connaissances. Mais même dans ce cas, il y a toujours quelque chose d'anormal. La mort n'a jamais été voulue à l'origine par notre Créateur. La Bible nous dit quel est le résultat d'une corruption, d'une perversion de l'autre créé. Que dit la Bible sur la vie, la joie et la mort? Qu'a-t-elle à nous offrir? Cherchons ensemble des réponses dans le psaume 16. Ce matin, nous poursuivons notre étude des portraits du Christ dans les psaumes. Dans le psaume 1, nous avons vu un portrait du Christ incorruptible. Dans le psaume 2, un portrait du Christ, le champion du ciel. Dans le psaume 8, un portrait du Christ roi, rétablissant l'ordre à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, le psaume 16, nous verrons le roi David jouir continuellement de Dieu, l'Éternel. David le fait à la fois dans le présent et pour l'éternité. Je montrerai que la jouissance de Dieu par David est une ombre projetée par une réalité spirituelle plus vaste, une ombre de la vérité plus profonde de Dieu le Fils, jouissant éternellement de Dieu le Père. Dans le cas de David et de Dieu le Fils, leur joie en Dieu perdure au-delà de la mort, à travers leur résurrection et dans une éternité de jouissance de Dieu. J'ai intitulé ce sermon « Élevé à une éternité de jouissance de l'Éternel, l'héritage sûr du peuple de Dieu ». Permettez-moi de le répéter. « Élevé à une éternité de jouissance de l'Éternel, l'héritage sûr du peuple de Dieu ». J'ai divisé ce psaume en quatre parties. Dans la première partie constituée du verset 1, nous voyons l'auteur et le titre de ce psaume. Dans la deuxième partie, qui comprend les versets 2 à 4, nous voyons la joie du peuple de Dieu en contraste avec la tristesse de l'idolâtre. Dans la troisième partie, qui comprend les versets 5 à 8, nous voyons la jouissance du moment de l'Éternel par David. Dans la quatrième partie, qui comprend les versets 9 à 11, nous voyons la certitude de David de jouir de l'Éternel pour l'éternité. Au début du psaume 16, au verset 1, nous voyons son auteur et un résumé de celui-ci. Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Nous voyons que l'auteur de ce psaume est David et qu'il est résumé comme une supplication, une demande de David pour que le Seigneur préserve sa vie. Qui est ce David? Il n'est autre que le prêtre roi d'Israël qui a été le berger du peuple de Dieu mis en avant la naissance de Jésus. David a défendu le peuple de Dieu en soumettant activement les nations païennes et leurs influences corruptrices présentes au milieu du peuple. Il a organisé le culte de Yahvé, le seul vrai Dieu en Israël. Son allégeance allait à l'Éternel et au peuple de l'Éternel. Après avoir été couronné roi, David a conquis Jérusalem et a transporté l'arche de l'Alliance, le centre du culte en Israël, sur la montagne de Sion. Bien qu'il n'ait pas construit le temple lui-même, David a préparé les matériaux nécessaires à sa construction et a acheté le terrain où il serait érigé. David a institué un véritable culte à Jérusalem et a composé un grand nombre de nos psaumes, le recueil des cantiques d'Israël, d'où est tiré notre passage. David a rappelé le peuple au vrai culte de Yahvé, du Dieu, c'est-à-dire un culte qui n'est pas entaché par les noms et les pratiques des faux dieux. La loi mosaïque qui avait établi un culte approprié lors de la fondation d'Israël avait été instituée en opposition aux perversions des nations voisines. Israël devait être une lumière pour les nations, mise à part pour Dieu comme étant saint, pur, non souillé par les pratiques pécheresses du monde. En résumé, David était un dirigeant zélé pour le Seigneur. Il se souciait de la pureté et de la sécurité du peuple de Dieu. L'affection de David pour eux est évidente dans les versets 2 à 8, à 4, c'est-à-dire dans les versets 2 à 4. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers un autre Dieu. Je ne répondrai pas leur libation des saints. Je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Il y a ici un contraste entre l'affection de David pour les saints, ces membres d'Israël qui se distinguent par leur pureté, et la répulsion de David pour les pratiques perverses des idolâtres. D'une part, David s'identifie volontiers au peuple de Dieu, et d'autre part, il prend clairement ses distances par rapport à l'adoration mensongère d'autres dieux. L'affection de David pour le peuple de Dieu et sa jouissance de Dieu sont telles qu'il compose chant après chant pour Yahvé et Israël. Il passe ses journées à promouvoir et à célébrer le Seigneur, mais refuser de prononcer ne serait ce que le nom des faux dieux. Il n'y a pas l'intention d'y prendre part. Son cœur appartient entièrement à son Dieu. Cette jouissance de Dieu à partir d'un cœur pur est évidente dans les versets 5 à 8. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon jour m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Nous voyons ici la jouissance du moment de l'Éternel par David. Il est pleinement investi, entièrement dévoué au Seigneur. Dieu se réjouit d'avoir jeté son dévolu sur le Seigneur. L'avenir de David est avec le Seigneur et il n'a aucun regret, seulement de la joie de vivre en présence de son maître, de son conseiller. Cette section sur la jouissance du moment de David dans l'Éternel est complétée et rehaussée par la section suivante, dans laquelle nous voyons la certitude de David de jouir de l'Éternel jusque dans l'éternité. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon cœur repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ici, la prière de David pour la préservation est exaucée. David est sûr de la résurrection qui l'attend. Sa chair ne verra pas la corruption. Il ne restera pas dans la tombe. Il est certain dans sa foi que le Seigneur ne le laissera pas pourrir, mais qu'il le restaurera et le préservera. Dans ce psaume, nous venons de voir David en compagnie du peuple de Dieu, jouissant de l'Éternel. Nous avons vu la jouissance du moment de Dieu par David perdurer au-delà de la mort, jusqu'à leur résurrection et dans une éternité de jouissance de Dieu. Sur quelle base pouvons-nous affirmer que ce psaume renvoie au-delà de David à Jésus-Christ? Comment pouvons-nous dire qu'il n'est que l'ombre d'une réalité spirituelle plus grande et plus profonde? Ne vous contentez pas de me croire sur parole, prenez le témoignage des apôtres. Dans le chapitre 2 des Actes des apôtres, l'apôtre Pierre s'adresse aux foules rassemblées à Jérusalem pour la Pentecôte et se réfère au psaume 16, versets 8 à 11. Pierre y explique que la promesse de résurrection de David, de ne pas rester dans la tombe et de ne pas voir son cœur se décomposer, n'a pas été accomplie à l'époque de David. Pierre explique que cette promesse n'a pas été accomplie par David, puisque David est mort et a été enterré à Jérusalem et que son corps est resté dans le tombeau. Pierre explique que David regardait vers l'avenir, annonçant la résurrection de son descendant, la résurrection de Jésus. L'espoir, la sécurité, l'assurance de David d'être ressuscité d'entre les morts reposait sur la résurrection du Christ. Mes amis, la foi chrétienne repose sur cette seule vérité. Jésus est ressuscité des morts. Que Jésus a été trouvé irréprochable devant le Père, que son obéissance parfaite la justifiait devant le juge de toute la terre et que l'Éternel ne l'a pas abandonné au tombeau. Mes amis, Jésus a vaincu la mort et est ressuscité. Quelle formidable espérance, quelle sécurité cela nous donne d'être sûr de la résurrection, parce que le Christ est ressuscité, le peuple de Dieu n'a pas à craindre l'obscurité d'un cercueil. les flammes d'un incinérateur ou les sombres profondeurs de la mer. Non, pour ceux qui sont en Christ, nous avons un héritage sûr et éternel auquel nous serons élevés. L'étreinte chaleureuse de notre Sauveur nous attend au-delà de l'horizon de cette vie. Si vous êtes en Christ, ne craignez rien. Soyez en paix. Soyez en paix, mais ne soyez pas complaisants lorsque vous considérez les perdus qui n'ont pas Jésus. Tu ne dois plus avoir peur, chrétien, mais avoir de la compassion et des soucis pour ceux qui craignent la mort sans le réconfort et la joie éternelle du Christ. Apportez aux autres la bonne nouvelle de la résurrection et de la joie du Christ en partageant avec eux cet évangile. Si vous n'êtes pas en Christ, vous devez craindre la mort, mais vous ne devez pas rester effrayé par la mort. Au contraire, laissez votre peur de la mort vous conduire à Jésus. Regardez avec moi Jésus dans l'évangile selon Jean, chapitre 11. Il vient d'arriver à la maison de Lazare, un disciple de Jésus qui vient de mourir. Et il s'entretient avec la sœur de Lazare pour tester sa foi. Nous voyons dans les paroles même du Christ la résurrection qu'il offre à ceux qui, comme David, ont la certitude que le Seigneur est la vie et qu'il sera avec lui pour toujours. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit en croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » En cette nouvelle année, que le Seigneur augmente notre joie et notre foi en lui, que notre jouissance de lui, comme celle de David, transcende la mort pour une éternité de satisfaction en lui. Que nous défendions et gardions la foi qui nous était donnée des prophètes et des apôtres dans les saintes Écritures. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réforme baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.